c'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, supermarket. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Yuta Ziapero.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Qu'y a-t-il, monsieur Patrick Biancone?
Nous discutions.
Au cancané.
Voilà. Nous discutions avec Laurent et notre ami joueur de l'AFL qui a expliqué son week-end fabuleux.
Eh bien, on va revenir dessus. On est au 78e Instant Sport. Et après l'Instant Sport, Patrick, la semaine dernière, on n'y avait que des défaites. Et bien là, on revient un peu avec des victoires.
Presque que des victoires. Aurélien nous en dira plus. Sur cette défaite lourde.
C'était le chat noir un peu ce week-end, Aurélien.
Ouais.
Et un grand OM Dijon hein, ce week-end.
Exactement.
Salut Aurélien, comment ça va?
Bonjour à tous, ça va bien, merci.
Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu es allé voir le...
Je suis allé voir le match de rugby du RCMN, tout à fait, à Lunel.
Très bien, mais comme voilà. Ça on va pouvoir revenir dessus. Pas trop de Jack Daniel ce week-end, ça va?
Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu veux parler.
Voilà. Alors oui, parce qu'Aurélien qui est passé chez moi la semaine dernière pour voir France-Espagne, il arrivait avec une bouteille de Jack Daniel et au final on a vu le Jack, mais on n'a pas vu le match. Mais c'était pas mal quand même.
Oui, hein, d'ailleurs, c'est assez scandaleux quand Ludo vous invite pour voir un match chez lui. Ça fait la deuxième fois qu'il m'invite. Donc la première c'était à Noël pour regarder le Christmas Day de NBA.
Encore on a vu.
On a vu à moitié puisque ça marchait pas. Et là, cette fois-ci, il a même pas allumé la télé. Donc c'est vous dire.
Et ouais, c'est comme ça.
Oui, mais aussi le dimanche, le dimanche matin, quand tu circules dans cette belle ville de Mende, tu croises Madame Ludo avec les deux gamins et tu te dis, mais où est Monsieur Ludo? Et donc Monsieur Ludo justement est en train de récupérer de ses nuits magiques. Agité. Et donc il laisse Madame avec les deux gamins. Et c'est compliqué. Avec le petit, le vélo et le casque, et donc il faut le faire traverser la route, c'est compliqué, il y a les voitures qui arrivent. Et
Monsieur Ludo est tranquille. André, justement,
voilà, et Monsieur Ludo est tranquille, peinard. C'est ce que j'ai vécu dimanche matin.
Je lui ai dit mardi soir, elle mérite la Légion d'honneur.
Alors c'est pas beau parce que dimanche matin, je suis allé courir 5 km sur le COS, c'est pour ça que j'ai été...
Personne ne te croit. Hein.
Allez, salut Julien, toi tu es quelqu'un de sage.
Oui, hein, l'exemplarité même. Bonjour voilà. À tous.
Avant on avait Laurent comme voix de la sagesse, depuis c'est toi.
Ouais, c'est
je trouve que tu tiens mieux ce rôle.
Ouais, la voix de la sagesse et de la jeunesse.
Voilà, salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde. Okay. Donc si on peut revenir sur le match de Marseille-Dijon, l'arbitre aurait oublié une paire de pénaltys pour l'Olympique de Marseille.
Au moins deux,
ce qui change quand même pas mal le résultat.
On veut la vidéo d'ailleurs.
Sachant que Marseille a quand même marqué deux buts dans ce match. Et donc du coup, voilà, c'est tout à fait injuste.
Et, ouais, et ça finit par un match nul. C'est étrange, hein, quand même, le sport.
Oui.
Allez, on va commencer par une excellente opération.
Qu'a fait Montpellier ce week-end, en fait?
Je ne sais pas.
Ils ont gagné. C'était les maillots
de l'Occitanie.
C'était les maillots de Montpellier.
C'était dimanche après-midi. Je suis allé courir aussi l'après-midi sur le COS.
Mais c'est normal, maintenant que Toulouse est la capitale de l'Occitanie, c'est normal que de laisser gagner la capitale régionale.
De toute façon, nous, on attend le barrage contre Nîmes. C'est tout. Alors, il faut bien qu'on redescende un peu, sinon on n'y arrivera jamais.
Il faut aussi que Nîmes augmente un peu aussi.
Ils sont pas loin. Ils vont y arriver. On va commencer par une excellente opération qui a eu lieu ce week-end. Essai en handball, très belle victoire du MGC dans les dernières secondes, 28 à 27 à Voiron. D'ailleurs, on aura le coach adjoint Maxime André la semaine prochaine et il nous parlera également des féminines moins de 18 ans qu'il entraîne et dont une bonne partie compose l'équipe du lycée Notre-Dame qui ont été championnes de France en UCEL. On dit UCEL ?
UCEL,
pour la troisième année consécutive. Donc j'ai essayé d'avoir des filles dans cette émission, mais elles sont en stage. C'est dommage, on verra avec Maxime si on ne peut pas en avoir la
semaine prochaine. Elles sont en stage chez Yves Rocher.
Pourquoi? Mais pourquoi non?
Non, rien, ça m'est venu comme ça.
D'accord, très bien. Alors, le MGC qui s'impose donc à Voiron d'un but pendant que Montluçon perd à domicile face à Loriol, que Vaux-en-Velin perd à domicile contre Saint-Genis-Laval, qui est juste devant en Mende. Au classement d'ailleurs, Aurélien, ça donne quoi ?
Alors, le classement, donc 12e et dernier, Vaux-en-Velin avec 22 points, 11e Voiron, 25 points, 10e Montluçon, 27 points, 9e Mende, 28 points. Et juste devant, il y a Saint-Genis-Laval avec 31 points.
Alors donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, on est barragiste, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, je me suis intéressé au duel Mende-Saint-Genis-Laval. Donc, on va regarder au-dessus, hein, parce que ça sert à rien de regarder derrière. Donc, on est à 3 points de Saint-Genis-Laval. Alors, vous allez voir, c'est un chassé-croisé jusqu'à la fin de la saison entre ces deux équipes. Prochaine journée, Mende reçoit Vaux-en-Velin, qui est dernier, pendant que Saint-Genis-Laval reçoit Valence, qui est quatrième. Ensuite, Mende va à Valence, pendant que Saint-Genis-Laval va à Bourgoin, qui est deuxième. Ensuite, Mende reçoit Bourgoin et Saint-Genis-Laval reçoit Montluçon qui est dixième. Mende va à Montluçon et Saint-Genis-Laval va à Saint-Priest troisième. Et dernière journée, Mende reçoit donc Saint-Priest et Saint-Genis-Laval reçoit Annecy qui est sixième. Donc on va avoir les mêmes équipes avec un match de décalage à chaque fois. On va rencontrer les mêmes équipes. Donc c'est intéressant comme fin de
c'est
parcours.
Le principe d'un championnat, en même temps tu rencontres toujours les mêmes équipes.
Non mais il y a 10 équipes, ça pourrait être mélangé. Mais là c'est vraiment dès que Vaux-en-Velin reçoit Saint-Genis-Laval va ou reçoit une équipe.
D'accord.
Le week-end d'après, on tombe contre cette même équipe. Donc c'est intéressant. Là.
Bien vu Ludo. C'est vrai que cette fin de saison s'annonce palpitante pour notre équipe du MGC et on se rend compte de l'importance de cette victoire de samedi dernier à Voiron qui nous permet de rêver encore plus et donc ce samedi 20h30 c'est ça donc à la Vernade bien évidemment match aussi capital que celui de Voiron avec la réception du dernier, victoire impérative pour faire un pas de plus vers cette passe de barragiste ou pourquoi pas la 8e place à voir. Mais bon, on reprend nettement espoir, c'est vrai, il faut le souligner.
Voilà, donc si on peut revenir sur le match de ce week-end, l'équipe avait quand même compté 6 buts de retard, donc c'était mal engagé. Et puis Pascal a remodifié carrément son équipe en deuxième période, avec notamment Erwan Pott qui joue d'habitude ailier gauche. Il s'est retrouvé demi-centre, alors je ne sais pas pourquoi, s'il y a eu des blessés, un concours de circonstances.
Il y avait Xavier Fournel qui n'était pas là,
voilà.
D'entrée, il n'avait pas pu faire le déplacement, donc qui est le meneur de jeu, le demi-centre titulaire, donc c'est pour ça qu'il
ouais. Bon, et donc, a eu du une coup, reposition de l'équipe. Repositionnement, et puis ça a bien fait, ça a bien gazé, ça a certainement bien défendu puisqu'on n'a pris que 27 buts, donc c'est plus facile de gagner un match, on l'a dit la semaine dernière quand on en prend 27 que quand on en prend 33. Et puis coup de chapeau aussi au gardien Gaëtan Roche qui a sorti la balle d'égalisation dans la dernière seconde puisqu'il s'est retrouvé en face à face avec un joueur de Voiron qui a voulu tenter un petit lob des écoles et Gaëtan a réussi à le choper.
10 arrêts dans le match pour Gaëtan.
Bravo à Gaëtan et bravo à toute l'équipe et au coach. C'est bien, ça laisse l'espoir pour encore se maintenir, c'était la victoire qu'il fallait pour pouvoir continuer cette saison. Quoi.
C'est l'arrêt qu'il fallait, hein. C'est peut-être l'arrêt déterminant de ce championnat.
Bon, il y en aura d'autres. Hein,
oui, il y en aura d'autres, mais c'est vrai que celui-là risque de compter quand même plus que les autres au moment du décompte de finale. Une superbe réaction de cette équipe du MGC qui joue un peu le tout ou rien sur ce match-là et qui aurait pu craquer... après une première mi-temps c'est vrai qu'il était mal engagé et donc je crois qu'en deuxième mi-temps on a pris que 10 buts donc 12 buts
bon, il y avait 15 à 11 à la mi-temps pour
15 à 11
ouais.
Bon, donc 12 buts sur 30 minutes on voit que la défense a vraiment resserré les lignes donc, on le dit depuis le début du championnat c'est la défense qui va permettre de se sauver en principe quand on prend moins de 30 buts on est dans le coup. Et quand on dépasse plus de 30, c'est vrai qu'on est en difficulté. Donc là, on était dans les créneaux après une première mi-temps donc, qui s'annonçait sur des bases, de mauvaises bases. Donc il a fallu resserrer cette défense et ça explique, à mon avis aussi, la victoire de samedi dernier.
Voilà, et c'est sûr que si on n'avait pas gagné, on aurait été mal. Mais là, 9e, premier barragiste, on peut vraiment y croire. C'est un point la défaite.
Deux matchs nuls et trois. Et puis, donc là, si tu avais perdu à Voiron, mais il fallait enlever 2 points à Mende et en rajouter 2 à Voiron, c'est-à-dire que Voiron était devant toi. Ouais. Donc tu étais avant-dernier, c'est toi qui étais avant-dernier. Donc ça change tout.
Julien.
Et puis c'est la première victoire à l'extérieur de la saison pour le MGC.
Bien.
Qui tombe vraiment au meilleur des moments, puisqu'on est toujours en plein cœur de ces fameux 4 matchs là qui étaient décisifs pour espérer se maintenir. Et on avait espéré 2 victoires à la maison et essayer de gratter des choses à l'extérieur. Et ben, il y aurait eu une victoire qui aurait été grattée à l'extérieur, il y avait eu une victoire à la maison, mais maintenant il va falloir confirmer ça contre Vaux-en-Velin dès samedi, parce que sinon la victoire d'avant-hier
ne servira à
grand chose. Ouais.
Surtout qu'on peut espérer que la semaine prochaine, où on reçoit le dernier, pendant que Saint-Genis-Laval reçoit Valence, qui est 4e, qui est quand même une grosse équipe, on peut espérer prendre les 3 points pendant que Saint-Genis-Laval prendra qu'un point, et à ce moment-là, on sera vraiment collé serré avec Saint-Genis-Laval à un point d'écart.
Il faut faire attention à Valence quand même, qui semble un peu... finir tranquillement cette fin de saison.
Ils ont perdu.
Ils ont perdu -1 à la maison contre Fontaine. Fontaine qui avait perdu à Mende. Donc attention à cette équipe de Valence qui
est une réserve.
Ouais. Donc voilà, c'est toujours particulier.
On
les
se focalise sur Saint-Genis, mais peut-être c'est sur Fontaine aussi qu'il faut regarder aussi.
Ils sont à 5 points.
Ils sont à 5 points, mais peut-être qu'ils ont un calendrier défavorable. C'est peut-être eux qu'il va falloir doubler, pas Saint-Genis.
Je pense que tu t'emballes un peu, mais on vérifiera. La semaine prochaine, je regarderai un peu les résultats. En tout cas, oui, voilà, c'est bien. C'est ce week-end contre Vaux-en-Velin.
Samedi.
C'est à
samedi
20h30. Ouais. Bon, mais il va falloir que...
Pas de blague, surtout.
Pas de blague, que le public réponde présent. Et soit en nombre au gymnase de la Vernède pour supporter cette équipe. Il n'y a pas de raison. Ça marche toujours. Ouais. En championnat honneur, l'équipe 2 a gagné à Latte 36-26, pendant que Béziers a également gagné 36-27 contre Lunel Marcillargues. Donc rien ne bouge. Mende reste deuxième à 2 points de Béziers. Béziers 39, Mende 37, Perpignan 34, Vonage 34, etc. Donc là, il va falloir attendre un faux pas et nous ne pas en faire. Il fallait une défaite. Les filles,
Les filles, elles ont fini leur championnat et elles attendent juste un tour de coupe de la Ligue qui n'est pas encore ce week-end.
D'accord, ok. Alors, il fallait une défaite dans cet instant sport. Elle nous vient du rugby qui termine sa saison, qui a perdu à Lunel 47-9. On espérait, et au final, ça ne l'a pas fait, même largement. J'ai essayé d'avoir Loïs Morisson et notre ami Kylian Arnal, qui, d'après ce que j'ai entendu dire, termine sa carrière cette année. Bon, ils n'étaient pas dispo, donc on va quand même refaire une émission dans notre salle du bac, quand toutes les saisons de tous les sports seront terminées, avec du public, le maximum de joueurs, pour tirer un bilan de cette année de tous les sports collectifs mandois et lausériens. Sur ce match du RCML, donc Aurélien, tu étais sur place.
Oui.
Raconte-nous un peu comment était l'ambiance, comment s'est comporté l'équipe, un peu tout ce qui a tourné autour de ce match.
Ah ben ça a été difficile, hein, le score en atteste. Vraiment quand on voit un score comme ça, il reflète vraiment la physionomie du match. On ne peut pas dire que le RCML ait eu de grands espoirs sur cette rencontre. Il y avait déjà 20-9 à la mi-temps, donc c'est vrai qu'ils marque pas un pion en seconde mi-temps. Ils ont très rarement eu le ballon et des occasions de s'approcher des 22 adverses. Donc ça a été très compliqué. Une entame de deuxième mi-temps assez catastrophique, puisqu'on se prend un essai en contre, une erreur dans nos 22 et les joueurs de Lunel qui récupèrent la balle et qui vont marquer un essai 80 mètres plus loin. Donc ça, je pense que cet essai a été le tournant du match. Ça a fait beaucoup de mal à la tête des joueurs mandois, qui après ont lâché, que ce soit autant physiquement que mentalement, et pour s'en prendre après 3 autres derrière encore. Donc score très lourd, des joueurs vraiment blessés et malheureux à la fin du match. Donc voilà, une saison qui s'achève un peu tristement, mais bon, on s'y attendait vu la saison, le championnat qu'avait fait Lunel, qui avait terminé 3e, et le club de Mende qui a toujours du mal à s'imposer à l'extérieur. C'est pas une grosse surprise.
6 essais encaissés quand même. Ouais. Ça fait beaucoup.
Alors, donc je l'ai dit, on va faire une émission avec tous les coachs, les joueurs pour tirer des bilans. Néanmoins, on peut commencer à tirer un bilan de cette saison du RCML.
C'est quand même une équipe qui montait une division au-dessus, avait les mêmes joueurs, quasiment.
Donc c'est quand même pas une mauvaise saison.
Quasimendi. Patrick, tu partages l'avis de Laurent ?
Je dirais saison correcte, mais il manque cette petite étincelle qu'on a connue la saison dernière. Bon, c'est vrai, à l'étage inférieur. Il y avait trois promus dans cette division honneur. Mende a été la seule équipe à se qualifier justement pour ces barrages, puisque les deux autres, que ce soit Tosh Corbière ou Vinassang, ont été éliminés dès la phase de championnat. Donc c'est un point positif à souligner. Après, il a manqué quand même un peu quelque chose pour justement se qualifier, mais pouvoir recevoir justement lors de ces barrages. Et c'est là, je pense, que le coach va avoir des regrets, parce qu'il a manqué, comme on l'a dit, ce petit exploit qui aurait permis de finir dans les quatre premiers, et donc d'avoir ce match de barrage à domicile, ce qui aurait bien évidemment tout changé dans l'approche de ce match. Après, prendre 47 points à Lunel, je pense qu'il devait y avoir vraiment de l'abattement dans les vestiaires, parce que tu peux être éliminé, mais bon, là c'est quand même... Tu prends cher, hein, 6 essais à 0, c'est clair et net. Donc là aussi, je pense qu'il y a une pointe de déception de partir, de finir cette saison sur cette note et et ce carton en ta défaveur. Bon, on sait qu'il y a eu des problèmes d'effectifs, hein, le coach nous l'avait dit, tout au long de la saison. C'est un peu le mal récurrent du rugby mandois depuis plusieurs saisons. Bon, après, tu es en honneur, tu te maintiens. Qui est qualifié pour les barrages, saison correcte. Mais je le répète, pour moi, il manque un petit quelque chose.
Oui, et après, il vaut mieux perdre 6 essais à 0 que perdre d'un point et être éliminé à la dernière seconde. Aurélien.
Pour en revenir sur cette équipe de Lunel, il y a beaucoup d'observateurs dans les tribunes qui disaient que c'était vraiment le match le plus abouti de cette équipe de Lunel, qui avait été vraiment concentré du début à la fin.
Très abouti, quoi.
On se moque d'Aurélien parce qu'il nous a expliqué comment ça se passait un peu dans les tribunes, mais bon, on reviendra pas dessus. Mais bon,
ça sentait la résine, effectivement. Ça sentait la résine, et il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui ont
volé. Il y avait Serge Aurier qui était fournisseur de chicha.
Les tribunes étaient en bois, c'est pour ça.
Et donc, ouais, il disait que c'était le match le plus abouti.
Ouais, vraiment, il disait que c'était vraiment le match le plus abouti de la part de. Arrêtez, les gars.
Ça joue bien.
Ouais. Non, et d'ailleurs, j'ai parlé aussi après avec quelques dirigeants de Mende qui ont dit que sur ce match, Lunel, ils avaient plus impressionné que Plage d'Orbe qui a fini premier de la saison en étant presque invaincu, me semble. Donc vraiment, ils voyaient Lunel à ce niveau de jeu aller très loin dans la compétition.
Lunel qui va tomber contre Sijan, il me semble.
Oui, non, oui c'est ça. Ouais.
Donc, il va déjà falloir qu'il passe. On sait si c'est... Là, c'est match terrain neutre à partir de maintenant.
Oui, et Plage d'Orbe contre Bédarieux. Puisque Bédarieux a fait l'exploit de gagner à l'extérieur.
Ah, bien. Oui. Il jouait...
Et Plage d'Orbe qui était qualifié.
Bédarieux qui avait fini cinquième, donc qui jouait chez quatrième, je crois que c'était Pic Saint-Loup. Et donc, ils ont gagné au Pic Saint-Loup.
Il vaut mieux perdre à l'extérieur que perdre à domicile contre...
Contre un moins bien
contre
classé.
Un moins bien classé.
C'est bien, cherchons des excuses. Laurent. Oui. C'est super. Laurent, tu pourrais prendre ta licence l'an prochain. T'es un peu un physique de rugbyman.
Non, merci. Ouais. C'est bon.
Il manque de joueurs.
Sport trop violent.
C'est vrai que c'est un peu violent.
Moi, je suis comme les joueurs de la semaine dernière là qui sont barrés. C'était trop violent.
D'ailleurs, ils ont perdu aussi. Ils ne veulent
pas
gagner.
Ah, mais ils devaient avoir. Mais je sais pas si ce match a pas posé des problèmes pour ces deux équipes, pour Lunel et pour.
Les cartons rouges, c'est vrai.
Les cartons rouges.
Avait deux joueurs en moins. Mende avait un joueur en moins puisque Mathieu était suspendu.
Allez, pendant ce temps-là, en CFA2, il y avait un match ce week-end en CFA2, on va en parler quand même, hein, on passe au football, avec Dif Cabourg qui poursuit ses matchs en retard et ses défaites, qui perd contre Borgo à domicile 3 buts à 1, Borgo qui du coup se rapproche de l'AFL avec 28 points contre 30 pour Mende. Y a-t-il une erreur, Laurent ?
Non, il n'y a pas d'erreur, mais juste pour dire que Dif Cabourg, c'était leur dernier match en retard.
Ouais, voilà.
Maintenant, le classement est nickel. Tout le monde avait match. Il reste 6 matchs pour tout le monde.
Exact. Okay. Parfait. Alors, la finale de la Coupe Garloser, victoire 3 buts à 1 contre le Nîmes Olympique. But de Gourmand à la 2e, Diallo à la 28e, Sasco à la 92e. Laurent, Patrick, vous étiez tous les deux au match. Julien, non, tu jouais, non, toi. Hein. Qu'y a-t-il, Julien ? Pourquoi
Non, je jouais.
Tu jouais avec la réserve ?
J'avais sport. La réserve de la réserve.
Ouais. Ah, la réserve de la réserve. Ah, bah, tu as dû gagner, alors.
Ouais.
Tu jouais où?
Au Malzieu.
Au Malzieu. Ah,
au Malzieu, tu gagnes.
Ouais, ouais. Ils étaient, en plus, ils étaient gentils. Ils nous ont bien accueillis avec des crampons vissés et tout ça. C'était...
Bon, allez, défaite 1-0 de l'AFL 3, on peut le dire. Au Malzieu, on ne reviendra pas sur ce match.
Non, non.
Par contre, on va revenir sur cette demi-finale de Coupe Gare-Lozère. Ça y est, on est en finale. Donc, c'est déjà un très, très bon point pour cette saison de l'AFL. Qui veut parler
Oui, parce que l'année dernière, tu étais en finale de la Coupe de la Région. Et donc là, cette année, tu as une finale de la Coupe Gare-Lozère, donc ça perpétue ce bon parcours. Bon, cette fois, il faudra la gagner, parce qu'on se souvient que l'année dernière, on avait perdu contre un club de Béziers. Mmh. Donc l'US,
un club
l'US
hiérarchiquement inférieur, voilà. Et c'est ce qu'il va y avoir aussi cette année, oui. Une finale de Coupe Gare-Lozère.
On ne sait pas qui c'est.
Non, puisque le match va se jouer le dimanche de Pâques entre Rousson, qui est dans la même poule que Marojo en DHR, et Vauvert, qui est dans la même division que la réserve de l'AFL, donc en PHA. Voilà, donc ça sera l'un ou l'autre, bien sûr, qui rencontrera l'AFL. Donc la date est toujours pas connue, le lieu est toujours pas connu. Et donc il y avait aussi cette grosse inconnue, ce match de Nîmes Olympique. On a tout entendu, est-ce qu'il allait être reporté ou pas. Bon, finalement,
est-ce qu'ils allaient venir, voilà, est-ce qu'ils allaient déclarer forfait.
Finalement, donc le match a eu lieu. Nîmes n'était pas forfait, Nîmes n'est pas monté à 9 joueurs, parce qu'on a entendu aussi ça... les jours précédents.
Ils bluffent,
donc,
Nîmes.
Ils sont venus à 12 éléments.
Ah, il n'y avait qu'un remplaçant quand même.
Oui, il n'y avait qu'un remplaçant. C'est vrai, une équipe jeune.
Et pourquoi?
Parce que c'était un week-end qui était libre depuis un moment et donc ils avaient soi-disant donné week-end aux éléments de la CFA2 et donc certains avaient prévu de partir et donc ils n'ont pas voulu rester pour jouer cette demi-finale. Donc ce qui explique leur difficulté à aligner une équipe. Après, il y avait les deux clubs s'étaient entendus sur. Une nouvelle date, le district n'a pas voulu, donc c'est vrai, ça a été un embrouillard mini, mais qu'on connaît régulièrement quand il s'agit de décisions districales.
Julien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la Coupe Gare-Lozère, donc c'est la CFA2 qui est engagée, et en championnat, ils ont le droit d'engager donc des pros qui ont l'habitude de jouer en Ligue 2, mais là, pour la Coupe, ils n'avaient pas le droit. Et donc cette année, en fait, l'effectif purement de la CFA2 a été réduit, donc il s'appuie sur des U19 et des joueurs qui redescendent de la Ligue 2. Mais ce week-end, il s'est avéré que les U19 avaient un match très important pour leur maintien du Nîmes Olympique. Donc,
Clermont-Ferrand.
Des joueurs qui ont gagné 3-1, d'ailleurs, les U19. Donc, on dira que le club a eu raison de faire ça. Donc, il n'y avait pas de U19, pas trop de joueurs pro. Donc, c'est pour ça que aussi l'effectif du Nîmes Olympique était réduit à seulement 12 éléments.
Mais alors, c'était des joueurs de. C'était des U16
très jeunes.
C'était qui?
Non, c'est vrai qu'il y avait, il y avait le numéro 10. Il y avait le numéro 10.
U17.
Et même le numéro 12 après, qui l'a remplacé, ouais. À la mi-temps. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils avaient 17 ans, 18 ans au grand maximum.
Après, ça veut pas dire grand-chose, hein, parce que quand
Mbappé
a que 19 ans. Hein.
Non, mais c'est vrai. Après, sur le match, il y a eu une première mi-temps où on a vu une équipe de l'AFL qui a maîtrisé totalement son sujet et qui aurait pu mener 2, voire même 3-0.
Un Fadil Gourmand intenable,
ouais,
on m'a dit.
Dès la fin du premier quart d'heure, il y a eu un coup franc de Fadil, c'est vrai, d'entrée... qui est digne de Dimitri Payet, aucun problème.
Je l'ai lu dans la presse, ça, cette comparaison.
Voilà.
C'est un joueur de Dijon, non, Payet.
Oui, il a marqué pas le même, mais il était aussi beau que celui de Fadil. Donc, après, il y a un immanquable par Lucas Esco, un peu comme le joueur de Bordeaux contre Nice, pour ceux qui ont vu le match hier soir. Donc, c'était à peu près pareil. Il y a eu une occasion aussi. Donc, tu aurais pu tuer le match d'entrée. Finalement, on a marqué un deuxième but sur une superbe passe de Fadil pour Abdou Diallo. Et puis après, une deuxième mi-temps, ben, comme souvent, on a vu une équipe de l'AFL qui recule, qui est un peu moins bien, qui se relâche, qui se déconcentre. Il y a eu ce pénalty dans les 10 premières minutes. Et puis, il faut reconnaître que si notre gardien, donc Jürgen Giraud, puisqu'il fait la Coupe Gare-Lozère, il se retrouve face à face justement avec le numéro 12 qui était rentré à la mi-temps. Et il a fallu qu'il sorte un bel arrêt du pied, sinon ça faisait 2-2. Et on a été délivré que fort tard, puisque l'arbitre n'a même pas fait le coup d'envoi après le troisième but, puisque le temps était terminé. Donc c'est pour dire qu'on a marqué au bout du bout des arrêts de jeu. Pas dire qu'on a souffert, hein, je vais pas aller jusque-là, mais il y a eu une deuxième mi-temps un peu en demi-teinte. C'est dommage.
Laurent.
Oui, ben je crois que Patrick a tout dit. Hein. À la mi-temps, on pensait vraiment que ça allait dérouler et puis qu'il allait y avoir une fessée. Puis voilà, on a bizarrement, on a reculé. Nîmes a pris le, a eu le ballon, deuxième mi-temps, sans être réellement dangereux. Hein, il y a eu qu'une occasion que Jürgen sort super bien du pied. C'était la balle d'égalisation vers la 80e minute à peu près.
Un peu avant, oui, c'est vrai.
Et donc en fait, bon, une domination stérile des Nîmois, mais voilà, avec toujours la crainte de se prendre un but à la noix, comme on a pris un penalty. Ben voilà, ça peut arriver. Donc on était pas super bien quand même, à l'aise en deuxième mi-temps, mais voilà, ça l'a fait, ça a gagné et c'est parfait. Il va falloir maintenant se consacrer à cette finale. Bon, le championnat, on voit que on peut jouer les troubles faites et gagner une paire de places peut-être, mais il faut surtout arriver avec un effectif au complet en finale, pas se blesser, pas avoir de suspendu. Donc il va falloir, je pense, le regarder ça. Et puis surtout, comme Patrick disait il y a quelques minutes de ça, l'année dernière, on avait une finale qui semblait être largement à notre portée contre une plus petite équipe. Ben, il va falloir pas reproduire les mêmes erreurs et jouer le match à fond, de ne pas croire qu'il est gagné avant, quoi.
Oui, parce que c'est une PHB l'année dernière.
Oui.
Et donc nous, ben, on était en DH. C'est vrai que on était largement favoris et puis on n'a vécu qu'une désillusion lors de cette finale. Donc c'est vrai, à ne pas répéter cette erreur et enfin conquérir un trophée. Parce que c'est vrai que finalement, des finales, ça fait un moment qu'on en perd, puisqu'on avait déjà perdu une finale
de la région.
De la région.
C'est ce que je vais te demander.
La coupe Garloser, on avait perdu aussi.
Dans le palmarès, on l'a cette coupe,
oui,
Garloser.
La coupe Garloser, on l'a gagnée en 2012.
Il y a 5 ans.
En 2012.
C'était à la Grande Combe.
Tu as parlé avec les dirigeants, avec le président Laurère ou le coach Fébrère. Est-ce que c'est un réel objectif, cette finale? Parce qu'on se rappelle, l'an dernier, c'était quand même particulier. Hein. On avait obtenu la montée en CF à 2. On l'attendait depuis des années. On s'était un peu relâché. Voilà. Cette année, c'est vrai que faire une saison convenable en CF à 2 et gagner une coupe, ça rend une saison réussie.
Ouais, je pense que maintenant, l'objectif, c'est vraiment de conquérir ce trophée. En plus, c'est vrai que le volley a gagné, lui, sa coupe. Bon, c'était une Coupe de France fédérale, mais ça serait bien que l'AFL gagne aussi une coupe.
Donc, je dirais même deux coupes, puisqu'il y a encore la Coupe Lozère aussi.
Voilà, exactement. Et
la Coupe bon,
et puis il y a, les U15, qui sont en demi-finale de la Coupe de la Ligue, eux. Donc c'est vrai que ça peut faire une saison sympa pour l'ensemble des équipes de l'AFL et pour le sport mandois. Donc je pense que c'est vraiment un réel objectif. C'est vrai que les dirigeants étaient... Bon, j'ai discuté un peu avec Coco Boyer au début du match. Les dirigeants étaient un peu déçus parce qu'il y a eu tous ces atermoiements de savoir si le match allait se jouer ou pas. Et c'est vrai que ça gâche un peu... c'est vrai qu'il n'y a pas eu une intensité. On en parlait avec Laurent à la mi-temps, on s'est vu. Il n'y avait pas l'intensité d'une demi-finale de Coupe Garloser entre deux équipes de CF à 2. Même dans les tribunes, il y avait un peu moins de monde que d'habitude. C'est vrai que les gens se sont dit, bon, c'est vrai que si c'est pour voir une parodie de football, si Nîmes monte avec une équipe en bois, 7, 8, 9 joueurs, ça va ressembler à rien. Donc je pense qu'il y a du monde qui était resté à la maison ce dimanche.
J'étais au Malzieu.
Bon. Voilà, donc c'est vrai que ça a gâché un peu la fête, cette polémique qu'il y a eu avant dimanche.
Moi, je courais sur le COS, je n'ai pas pu venir.
Voilà. Non, mais moi, j'ai moins de remords que tous ces gens qui ne sont pas venus, parce qu'une demi-finale Coupe Garloser, ben, on joue pour la gagner. Que les autres soient montés à 9, ça ne m'aurait rien fait de particulier. Et là, le match n'était pas super emballant.
Bon, et un match n'est jamais gagné à l'avance.
Et un match n'est jamais gagné à
l'avance. On l'a vu plein de fois.
Un match de Coupe, il faut le gagner, point barre. Si les autres ne jouent pas le jeu, ben, c'est leur problème, quoi. Carrément. Ouais, alors toi tu veux pas parler, d'accord.
Non, mais comme tu le disais, Ludo, on a vu un Fanny Gourmand hyper actif, en particulier dans ce premier mi-temps, avec des gestes techniques dont il est capable. Hein.
On a déjà parlé d'un lobe aussi.
Bon, oui, il a tenté un lobe un peu des 49.
Ça, c'est le lobe du mec qui est fatigué en fin de match. En fait,
il est passé quand même,
quand même le boulevard pour aller au but, mais il était encore courant central. Il s'est senti
peut-être il aime le beau jeu, tu vois.
Ouais. Non, je connais, j'ai eu plusieurs fois la même situation que lui. Et j'aurais tenté aussi.
C'est vrai que par contre, il a eu un coup franc juste avant la mi-temps, et c'est vrai que le gardien est allé le chercher au ras de son poteau.
Et c'est pas un coup franc son but, la deuxième minute.
Le premier, oui.
C'est un coup franc déjà.
Et puis bon, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but.
Sur le deuxième but. Ouais.
Il était positionné où sur le terrain? À quel poste?
Un peu sur le côté droit. Un peu dans l'axe.
C'était un électron libre.
Voilà, il devait se replacer, mais on sentait qu'il devait se replacer sur l'aile droite, puisque l'aile gauche était occupée par Lucas Esco. Donc il devait, on sentait que à la perte du ballon, il devait bloquer le couloir gauche nîmois.
Voilà, et après, en deuxième période, c'était l'autre côté qui devait, puisque Lucas est sorti, remplacé par Zibra. Et donc, Fadil faisait aussi les efforts sur le côté gauche pour venir défendre.
En fait, ils l'ont laissé du côté de la buvette tout le temps.
Voilà, quoi. C'est ah, ça.
Ils le connaissent, Fadil, c'est bien ça.
Non, il a fait un très bon match.
Donc, on a eu l'impression presque qu'on joue à trois défenseurs action, puisque j'ai eu un point à mi-temps à Issam Fadil. Être quasiment au niveau des axios Mika de Freitas et,
très, très bas.
Et Pierre Tessier, et donc ce qui permettait aux deux arrières latéraux, donc Dimitri Contreras qui était sur l'aile gauche, puisque Yohan Robert était suspendu, et donc notre ami Paul Camizulis qui était lui occupé le latéral droit, donc qui était vraiment placé hyper haut, et donc on avait l'impression qu'on jouait à
trois. Oui, parce qu'on récupérait le ballon haut. Très haut, donc ça permettait de toujours avoir la balle dans le camp adverse, ce qui est quand même assez sécurisant.
D'ailleurs, on a des nouvelles de
Paul. Oui, alors on passe le bonjour à Paul.
Explique-nous ce qui s'est passé pour nos auditeurs.
Sur un contre, là, il est allé mettre le pied sur une offensive du joueur de Nîmes. Et puis ça a fait un contre, bim, il s'est pris le ballon dans la figure. Et donc tout de suite, on a bien compris qu'il n'allait pas. Donc le coach a fait rentrer Flo Fedel. Et puis, voilà, un gros hématome à l'œil, il a été évacué à l'hôpital de Mende. Et puis ensuite à Montpellier, parce qu'à Mende, il n'y a pas les services adéquats. A priori, aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Il est revenu cette nuit dans sa famille. Et donc, on va lui souhaiter un bon rétablissement, qu'il retrouve rapidement ou très rapidement les terrains, sans faire de folie, évidemment, bien sûr.
Ok, mais tant mieux que ça aille bien. En tout cas, voilà, objectif réussi. C'est une très bonne chose. On n'a pas du tout d'idée. C'est quoi? C'est Vermé? Ça doit être Vermé.
En principe, ça sera pour le week-end de l'Ascension. En principe, les finales de coupe, c'est à ce moment-là. Mais la date n'est pas fixée, ni le lieu.
Ok, bon, mais on reviendra dessus dans un prochain instant sport. Pendant ce temps, la réserve de l'AFL gagne contre Aigues-Mortes de but à 1, but de Bourguet et d'Adani pour l'AFL, pendant que dans le choc du 2e et 3e de ce championnat, Saint-Privat et Susclan-Laudun, un match nul, un but partout. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent?
C'est juste pour compléter que... Alors je vois que t'as pas le même classement. Moi ce matin j'ai vu sur le site de la Fédé qu'on avait 10 points d'avance avec le second Saint-Privat qui avait un match de...
Non c'est ça, le classement qu'il y a là il est bon.
Ah ouais,
Mende, on est premier avec 63 points.
Non mais peut-être tout n'était pas encore mis à jour.
Non, on est premier avec 63 points, Saint-Privat est deuxième avec 55 et Susclan et Nîmes Athlétique ont 50 points et juste Susclan a un match en moins.
Bon il n'y avait pas le résultat de Saint-Privat.
Non, Saint-Privat Susclan c'était le résultat qui manquait mais...
D'accord. Oui, donc il y a 8 points d'avance à
5
journées de la fin.
Oui. Il nous reste 3 matchs à domicile et 2 à l'extérieur. Et
en plus.
3 victoires, ça suffira pour être champion. Donc.
Les 3 victoires à domicile, voilà, et
c'est ça. C'est sûr que le match nul d'hier de Susclan et Saint-Privat, partout, combiné à notre victoire, c'est d'un point de vue comptable un excellent week-end.
La réserve qui monte en quoi si elle monte?
DHR.
DHR, ah ouais, bien.
Même niveau que Marjol.
Oui.
Ah, il peut tomber avec Marvejol, c'est possible?
Je pense que géographiquement, ils peuvent les mettre dans la même boule.
Surtout avec la réforme par rapport aux nouvelles régions, tout ça, je pense que...
Ah ben ça serait bien ça, tiens.
Si vous avancez pas, je vous rappelle que c'est géré par des gens qui ne regardent pas les cartes.
Mais là, c'est géré par la Ligue. La DHR sera gérée par la
Ligue. Oui, mais enfin, la Ligue, c'est ceux qui ont refusé de refaire jouer les matchs de Marvejol.
Ah, on va pas revenir dessus.
Ah si, quand même.
Allez, nos amis, les féminines perdent à domicile contre Saint-Onès 3-0. Alors, qu'a fait notre stoppeuse, le Rock Célia? Je pense qu'elle devait être absente. Il faudrait peut-être qu'elles arrêtent de jouer à une touche de boule. C'est peut-être ça aussi. Allez, on laisse Lyon. On va arrêter de les embêter, nos amis. En tout cas, on va donner les classements. Alors, c'est compliqué parce que il n'y a pas le même nombre de matchs. En gros, on est 6e sur 8 avec 8 matchs, comme d'ailleurs les 4 derniers. Et sachant que le 4e a un match de plus.
Et
3 points de plus. Beaucoup plus. Le 4e a 9 points de plus, mais avec un match de plus. Voilà. En tout cas, c'est un peu compliqué.
Non, mais 9 points de plus que nous.
Que nous.
Oui.
Que nous, oui.
Pas que le 5e.
On est 6e.
On est 6e.
D'accord.
Avec 8 matchs. Non, en tout cas, belle saison. En division nord régionale, donc Marvejol qui recevra l'an prochain la réserve de l'AFL fait match nul sur son terrain, 0 partout contre Ballaruc-les-Bains et reste 8e de son championnat.
Non, mais je sais, je rajoutais les points perdus bêtement là, parce qu'il n'y avait pas d'équipe.
Ah, c'est vrai qu'on ouais, c'est ça. On leur a enlevé 6 points, je crois. 6 points, 8 points
5.
5.
5 points.
Ouais. Dès qu'il n'y a plus Patrick, nous, on ne se rappelle plus. Ouais, Aurélien, t'étais là, tu t'en souviens.
Oui, c'est 5.
C'est 5
ouais, il n'est pas certain.
Et dans la poule, juste dans la poule de Marvejols, pour dire que Uzès est officiellement champion et monte déjà en DH à 5 journées de la fin.
Eh ben, beau parcours d'Uzès. Hein.
Ah, oui, ça fait quelques années qu'ils font une remontée impressionnante. On se souvient qu'ils étaient en national, puis il y avait eu une liquidation financière. Donc là, ils repartent vers le haut.
Ouais.
Après, c'est pas pareil, hein, la DH.
Tout à fait.
Non, mais ils ont une équipe quand même où il y avait pas mal de joueurs qui étaient en national. Puis ils étaient dans notre ouais. poule l'an dernier en PHA. On avait pris 4-1-5-0 contre eux. Ils étaient déjà largement au-dessus de la PHA. Cette année, on voit qu'ils sont encore largement au-dessus de la DHR. Donc je pense que si c'est, parce que c'est à peu près le même groupe que l'année dernière, si ça en reste là, je pense qu'ils auront moyen de faire quelque chose encore l'an
et
prochain.
Et donc Rousson qui va jouer peut-être la finale contre nous, Garlozère, est quatrième.
Oui.
Voilà, quatrième avec 45 points. Et après, il joue contre Vauvert qui est sixième de la poule de la FL2. Dans tous les cas, on connaît. Je crois qu'il y a ton téléphone qui va pas tarder à sonner, Patrick. En tout cas, voilà, Marvejols, 8e, milieu du classement, 41 points. Le dernier en a 24 et le premier en a 64. Donc voilà, on est à 20 points du premier et on est quasiment à 20 points du dernier aussi. Dans l'autre sens, on est bien, bien à domicile. L'ENL sombre à domicile contre Montluçon, 6 buts à 1. Rien ne va plus, faites vos jeux, on pourrait dire.
Ça fait deux week-ends là, qu'ils prennent 5-0 et 6-1.
Montluçon qui a marqué les 7 buts du match d'ailleurs.
Ouais, on dirait Montpellier à l'extérieur. Quoi. C'est vrai, c'est un CSC de Montluçon.
Les comptes sont encore là. Mm. En plus, ils ont marqué après une minute le NL.
Ouais.
Mais bon, ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi. Ouais. Montluçon qui va perdre contre le MGC d'ailleurs dans pas longtemps. On emballe, mais c'est autre chose. En PHB, le Buisson gagne Marguerite 3 buts à 1, but de Zerzak, Pascal et Gaillard, match nul à Badarou à domicile contre Langlade, but à la 23e de Morgan, Badarou qui est 10e sur 12, 33 points, le Vigan qui commence à s'échapper, qui est juste devant 38 points, ça sent pas très bon non plus pour Badarou.
Surtout que c'était contre le dernier, là. Ouais. Langlade était dernier, donc c'était un match hyper important. Il n'y a qu'un match nul, c'est vrai qu'il va falloir cravacher parce que Badarou n'est pas sauvé.
Il y en a combien qui descendent là?
Au moins deux.
Au moins deux.
Ouais. Ah ben bah, ça va, on est 10e sur 12. Donc,
au moins deux.
Au moins deux. Après ça dépend.
Et puis la saison n'est pas finie.
Qui descendent,
et puis ça va dépendre de tout ce qui se passe au-dessus. Ouais.
Et on est à 5 points du Vigan, ça commence à faire là. Il reste aussi pareil 5 journées
Il doit rester 5 journées, mais Badarou doit avoir des matchs en retard donc. Peut-être 6 ou 7 pour eux.
Ouais, ils ont un match en retard.
Ouais, j'ai pas vérifié. Allez, on va terminer avec Langogne qui gagne 3 buts à 1 contre Serra, doublé de Gaudin et but de Gillian à la 70e. Voilà pour les résultats sportifs. On a beaucoup d'actualités nationales et internationales, donc on va vite passer à la pause musicale. Tu veux dire
Juste pour finir sur l'actualité locale, sur les M17 du volley qui se sont fait éliminer. Au 6e tour, on avait reçu leur coach là il n'y a pas longtemps. Ils pensaient pas aller si loin, donc voilà, c'était juste un petit mot. Ils ont perdu à Arnes, 2-0 contre Arnes et 2-0 contre Rennes, mais ils ont fait un super parcours.
Ouais, bravo.
Bravo et bravo Julien.
Ils font partie des 16 meilleures équipes moins de 17 de France.
Allez. Comme quoi, le club de volley de Mende est un vrai club formateur. Il y a la relève, qui est assurée.
C'est ça. Allez, pause musicale, gros son, Dr. Dre, Côte Ouest, Hip Hop, et on revient dessus après pour l'actualité nationale et internationale.
C'est la mode. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got
love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give
still,
you the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still hitting the corners in them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back.
So you ain't up on things.
Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get mine regardless.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners in them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners in them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners in them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air. Air. Boy, use a fool, D.R.
Alors, avant de reprendre cet instant sport, Laurent va nous chanter du Bon Jovi. Vas-y.
Non, mais je ne me rappelle plus, là.
Bravo.
Il faudrait que je m'entraîne, d'abord.
Ok. Allez, on va commencer par du handball, parce qu'on parlait de notre ami Luc Respon, l'hérisson qui a couvert le quart de finale de Montpellier. Alors, tout d'abord, le PSG...
Le huitième.
Le PSG qui est qualifié pour l'écart après s'être défait de Nantes. Et surtout Montpellier qui va s'imposer chez le vainqueur de l'an dernier, Kils, 28-26. Gros match, très très belle victoire. Et après le vainqueur de l'an dernier, eh bien Montpellier va jouer son quart de finale contre le finaliste de l'an dernier, oui, qui n'est autre que Veszprém les Hongrois. Un peu étonnant cette équipe de Montpellier quand même, hein, sur ces deux matchs.
On se rend compte que Montpellier... repart vraiment sur une dynamique impressionnante, comme on a pu le connaître il y a maintenant 5-6, voire même peut-être 10 ans. Donc éliminer le champion en titre, c'est vraiment une énorme performance. Et on sent que ça repart du bon côté pour cette équipe de Montpellier.
Et en l'éliminant, gagnant plus 5 à la maison et plus 2 à l'extérieur. Ouais. C'est surtout ça, quoi.
Oui. Premier quart depuis 2012 dans cette Ligue des Champions.
Voilà. On sait contre qui Paris tombe, parce que j'ai vu Montpellier.
Contre d'autres Hongrois. Zeged.
Moins
fort, bien sûr, que Veszprém.
Ok.
Paris sera favori.
Bon, mais on va suivre ça avec, avec attention. On va te faire plaisir, Patrick. Allez, on va tourner la page Joachim Noah, NCAA. car après Joachim Noah, un nouveau pivot français va jouer en finale du championnat universitaire avec Gonzaga. Il s'agit de, Patrick, tu le sais ?
Du frère Attili.
Voilà, Kylian Tilly, 19 ans, 2m8, dont l'équipe s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en plus pour la finale du championnat universitaire aux États-Unis en battant South Carolina 77-73 samedi à Phoenix, la finale qui a lieu ce soir. Tilly qui
est... Cette nuit, je crois que c'est à 3h du matin.
Cette nuit, c'est ça, ouais. Alors, c'est pour l'instant un joueur d'appoint à Gonzaga. C'est un freshman, c'est-à-dire c'est un première année universitaire, donc il joue très peu, qui a des statistiques respectables avec 4,5 points de moyenne, 3,1 rebonds pour 12 minutes de match régulière. South Carolina, qui était l'équipe surprise Non, c'est Gonzaga qui était l'équipe surprise de ce Final Four, qui a gagné. Alors, il faut savoir que sur la dernière action du match, ils peuvent revenir à hauteur de Gonzaga. Et il loupe, Tilly prend le rebond, lui qui joue très peu. Faute sur Tilly, il marque ses deux lancers francs juste avant la sirène. Donc, c'est un peu l'homme du match sans avoir beaucoup joué, donc ce qui est pas mal. Tu as vu le match, toi, en direct, parce que t'es un ouf.
Oui, tout à fait. Ah, oui, il était samedi soir à minuit, oh, oui, donc je l'ai regardé.
Fais pas cette tête, Laurent.
J'étais devant ma télé. Ça t'étonne ?
Non.
Et non
77 000 spectateurs.
Ouais, ouais, une ambiance impressionnante. Il disait justement que la finale du championnat universitaire qui va avoir lieu cette nuit, c'est le deuxième événement sportif qui est le plus suivi derrière le Super Bowl.
C'est ça.
Donc c'est vraiment...
Devant les finales NBA.
Ouais, donc c'est vraiment une grosse affiche et une énorme ambiance dans les États-Unis qui va y avoir cette nuit. Ouais, 77 000 personnes la demi-finale, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Quand on a 19 ans comme le petit jeune Tilly, faire un match comme ça et marquer les deux lancers francs de la gagne juste avant la fin du match, il faut avoir les nerfs solides.
Patrick, toi qui connais tout ton sport, parle-nous un peu de cette famille Tilly.
C'est impressionnant puisque le père a été un immense joueur de volley, un des meilleurs. De son époque en France, il est maintenant entraîneur de l'équipe de France, donc qui a certes raté ses Jeux Olympiques, mais qui a été champion d'Europe, vainqueur de la Ligue mondiale, et donc c'est lui qui entraîne bien sûr la merveille Erwin Engapet. Et il est parallèlement coach des filles de Cannes. Donc ça c'est le père. La mère a été internationale également de volley pour les Pays-Bas. Et donc, ils ont trois garçons, un qui joue au volley, et donc qui est bien sûr en équipe de France un élément majeur. Et puis, il y a un autre qui joue au basket à Vitoria, au Pays Basque espagnol.
Après avoir joué pendant des années en NBA.
Non.
Si, son grand frère était en NBA, il a passé 4 ans en NBA. Si, s'il vous plaît.
Non, pas du tout.
Je crois pas.
Pas du tout.
Non. Et donc, il joue aussi en équipe de France... Donc il essaye de se faire sa place dans ce monde des pivots français, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est un joueur de devoir.
Il était dans le groupe France à la dernière Coupe du Monde où France avait fait médaille de bronze.
Exactement. Et donc là, il y a le plus jeune qu'on découvre, et donc qui est peut-être champion universitaire ce soir. Et donc il prenait la succession de Noah, puisque lui, il a été 2 années d'affilée.
Voilà, avec les Florida Gators.
Exactement.
Alors, les autres ont la réponse, donc je ne vais pas leur poser la question. Sais-tu, Patrick, quel joueur français qui a été international, qui a joué de longues années en NBA, a joué à Gonzaga ?
Turiaf.
Bien. Très bien, ça.
Ronny Turiaf.
Ok, bah écoute, il y a John Stockton aussi qui a joué, qui est un des basketteurs américains qui est extrêmement connu, qui a joué aux Utah Jazz, non ?
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, il y a Tilly qui a d'ailleurs dit que s'il a signé à Gonzaga, c'est parce que Turiaf l'a appelé pour lui vanter les mérites de cette université, puisqu'il avait le choix entre 2 ou 3. Et donc, il a choisi Gonzaga suite au coup de fil de Turiaf.
Ok, ah bah super ça. Je suis en train de chercher en même temps le frère Tilly dans quelle équipe NBA qui a joué.
Celui qui joue basket, Kim Tilly, ouais.
Tilly. Voilà, mais je vais vous trouver ça là. Vous allez
être... Je pense que tu ne le trouveras jamais.
Vous allez être... étonné. En attendant, qu'est-ce que je pourrais vous dire?
D'ailleurs, le plus grand qui joue au volley, lui, a été 2 fois champion universitaire aux États-Unis en volley.
Exact.
Ah bon?
Oui.
Très bien. Ok, ça y est, je l'ai, le frère Tilly, qui jouait en NCAA au College Athletic Association, qui a remporté le titre d'Europe Junior en 2006. Il a signé à l'ASVEL, à Murcie, et il n'a pas signé en NBA. Bravo, messieurs. Ok, très bien.
Un peu pour nous, ça mérite un point.
Ouais, tout à fait.
Et d'ailleurs, vous avez vu que le, on n'a pas été très bon, parce que le 4-1 Paris-Monaco, c'était un peu difficile à pronostiquer, donc ça bouge pas. Laurent a toujours LOL en résultat, et on reste à 4-2-2-2 pour les autres. Hein, Lolo? Lolo. Ah, mais je vais rajouter un mot, ça fera Lolo sur tes résultats. Donc Paris qui gagne 4-1 à Monaco. Alors j'aimerais qu'on s'attarde
à
sur
Lyon, à Lyon.
À Lyon contre Monaco à Lyon. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le buteur du PSG, Cavani, parce qu'il y a l'équipe qui a fait un beau reportage aussi sur ces statistiques là qui sont sorties aujourd'hui.
40 buts en 40 matchs.
40 buts en 40 matchs. 12 buts en Coupe de la Ligue, meilleur buteur du PSG dans l'épreuve devant Paoletta. 27 réalisations en Ligue 1, c'est le meilleur buteur des 5 grands championnats. Donc 40 buts, tu l'as dit, il n'avait jamais fait mieux. Son record, c'était 38 buts quand il était à Naples. Et il est auteur d'un but toutes les 81 minutes, toutes compétitions confondues, ce qui fait le ratio le plus efficace dans le top 5 européen parmi les joueurs comptant au moins 10 buts. Et avec 121 réalisations, El Matador est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Paoletta qui a 109 buts. Et il est juste à 35 buts de Zlatan, sachant que s'il continue au moins une année de plus, s'il fait 40 buts par saison, il va le dépasser. Alors ce Cavani qu'on décriait en disant c'est un grand buteur, mais après il n'est pas très agile de ses deux pieds, dans le jeu il n'apporte pas plus que ça. Faut-il faire un mea culpa aujourd'hui, Patrick, sur ce joueur?
Pas forcément, parce que le constat... Je fais aussi celui-là, c'est un joueur techniquement qui est frustrant. On se rend compte quand même qu'il a quand même du mal à être dans le jeu, et puis parfois il rate des occasions immanquables. D'ailleurs on l'a vu dans cette finale, hein. Il met deux buts somptueux, mais le plus facile, à 5 mètres du but, il n'y a personne, hein, il le met à côté. Donc c'est ce côté-là qui est un peu rageant quand on voit jouer Cavani. Après, ceux qui disent que c'est pas un grand buteur, ben, c'est sûr qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Et puis moi, il y a surtout un aspect qui me fait rêver chez ce joueur, c'est sa capacité à défendre et à se sacrifier pour l'équipe. Et moi, je dis chapeau, parce que il pourrait se cacher un peu de temps en temps en attendant les ballons. Et s'il faut faire un sprint de 40 mètres pour revenir... sur une aile, il va le faire sans problème. Et donc c'est pour ça que moi je dis que c'est surtout sur ce côté-là qu'il est pas tout à fait reconnu, et on devrait mettre plus en avant Cavani, justement pour cet aspect collectif où il n'hésite jamais à travailler pour son équipe.
Tu as raison, Patrick, en parlant de combativité, toi tu as vu un peu ça au Malzieu ce week-end, Julien.
Oui, mais la combativité de Cavani, c'est dans le bon sens du terme.
C'est vrai.
Celle du Malzieu, elle était plus axée sur les chevilles et les genoux.
Oui. Ouais. Alors, Laurent, j'aimerais que tu interviennes un peu, parce qu'il y en a marre de ces jeunes qui se plaignent des combats rudes et tout ça.
Chouchoute.
Hein ? On est d'accord. Toi, au Malzieu, tu allais avec plaisir, avec contrainte. Ah bah oui. Tu étais content d'y aller.
J'ai jamais eu de rencontrer de soucis particuliers avec cette sympathique équipe du Malzieu.
C'est eux, par contre, on en a avec toi.
Non, c'est vrai que c'est le genre d'équipe qui attend toujours le match contre l'AFL avec impatience.
Ça fait 10 ans qu'ils attendaient une victoire.
Non.
Ils ont dit, et quand ils sont rentrés, ils ont dit, t'as vu, il est pas là.
Non, le grand champion
n'est pas là.
Et non, c'est vrai que quand tu joues à l'AFL en équipe 3, ben, y a beaucoup d'équipes qui attendent ce match avec impatience pour te faire chuter, quoi. Donc, ouais. Ben, des fois, un peu d'intox sur les chevilles, ça se fait aussi, quoi. On l'a eu fait nous aussi quand on a eu joué contre des équipes censées être meilleures. Ben, c'est le foot.
Ouais, c'est le foot.
Alors, ouais. Tu sais que Edinson Cavani est en train de nous écouter. Il se dit, ah, il parle de moi, et là tout d'un coup, bim, allez, on parle du Malzieu.
D'ailleurs, il a regardé sur Google pour savoir où il trouvait le Malzieu.
Pour pas jouer. Il a cherché Coupe de France. Il s'est dit, Edinson Cavani, hein ?
Ouais,
Julien.
Pas mal, hein, quand même. Le petit gène. Non, mais là où c'est impressionnant, c'est que l'an dernier, quand il jouait sur le côté, mais il marquait quand même. Et alors, on disait, oui, il joue sur le côté, c'est normal qu'il défende, qu'il fasse les efforts, hein. Mais cette année, il est dans l'axe, mais ça ne l'empêche pas de venir quand même sur le côté, de faire les efforts défensifs, d'aider l'équipe, parce que c'est toujours dans un but d'aider l'équipe. Mais quand on voit qu'il est dans l'axe, en plus de tous ses efforts, il met plus de buts que l'année dernière. Et là où il est impressionnant, c'est que c'est sur son jeu, son efficacité face au but, quoi, en une touche de balle. À chaque fois que c'est en une touche de balle, il est dans toutes les positions, sa reprise de volée est magnifique. Le deuxième but, il la prend en demi-volée au niveau des 6 mètres, ça va se loger sous la barre. C'est un attaquant qui est complet. Et quand on voit qu'il est dans l'axe, que, alors on joue pas que pour lui, mais c'est vrai que quand on le cherche plus qu'un Zlatan qui lui faisait pas mal d'ombre l'an dernier, ben on voit que le PSG peut largement jouer avec Cavani et se passer de Zlatan.
Laurent, on te propose Benzema ou Cavani à Marseille, tu choisis qui ?
Bounassar. Les deux
Évidemment Cavani.
Tu vois, Patrick, je suis pas sûr. Benzema ou Cavani ?
Non, je prenais Cavani aussi.
Ah aussi ? D'accord.
Ah oui, c'est un joueur qui est complet. J'ai jamais vu Benzema défendre avec autant d'ardeur qu'un Cavani sur...
Non, j'ai choisi Benzema parce que c'est pas du tout ballon, le même type. C'est pas le renard de surface, mais c'est le joueur qui participe au jeu.
Ah si, c'est un renard de surface, Benzema.
Oui, Benzema, il embellit le jeu, et c'est pas un buteur. Non,
tu parlais de Marseille, tu sais que c'est Mandzukic qui va signer comme avant-centre à Marseille.
Ah oui.
C'est une bonne nouvelle aussi.
Ah oui, oui.
Non. Il y a Evra qui l'a appelé, mais ça veut rien dire du tout.
Avec un super gardien.
Une info qui est sortie, Mandzukic
quasiment à la retraite, mais...
Et Pelé, il te sort... il te gagne le match, hein, contre Dijon, presque.
C'est vrai qu'il a fait 2-3 arrêts. Il a fait 2-3 arrêts, c'est vrai.
Ouais.
Il a fait 2-3 arrêts.
Tu parles de quel goal, là, qui doit signer ? Qui sort de sa retraite ?
Ben, celui de Madrid, là. J'ai mangé son nom.
Casillas.
Casillas. Ils veulent prendre Casillas. Alors, c'est un choix complètement aberrant, puisqu'il a 38 ans, je crois, 39 ans. Non. Donc, quand...
35, je crois.
Non.
Je pense qu'il se rapproche.
Je
pense que Laurent a raison parce que
34-35.
Moi je pensais qu'on était classé.
À 34 ans, il jouerait encore en sélection.
Avec notre ami Julien.
Non, mais il est pas à la retraite encore. Il joue à Porto, donc il a fait les champions. C'est un bon gardien.
Tu as un projet d'être champion de France d'ici 3-4 saisons.
36 ans le 20 mai prochain.
Ah ouais.
Donc il a 35 ans.
Il fait plus vieux. Il fait mon âge.
36 ans, c'est pas tout jeune non plus. Hein.
Non, je vois que Patrick me regarde.
Non, mais si, surtout s'il signe comme ça, sa femme est journaliste, on pourra l'inviter
dans
notre talk show.
Ah, tout à fait. Oui.
Avec plaisir. Mais à ce moment-là, vous ne serez pas invité. Ok, bon, mais on va s'arrêter là avec Paris. C'est un coup dur, tu penses, Patrick, pour Monaco, cette défaite. Moi, je pense que ça ne va pas influer sur le championnat. Je pense que c'est deux choses totalement différentes. Là, les médias commencent à dire « Oulala, Paris prend l'ascendant, ils prennent le dessus, ça va porter un coup à Monaco ». Moi, j'y crois pas trop. Tu en penses quoi, toi ?
Psychologiquement, c'est vrai que ça fait mal aux dents, surtout sur une finale. Après, Monaco a quand même une capacité de réaction, mais on se rend compte s'il manque 2-3 éléments clés, après ça devient compliqué. C'est vrai que sans Fabinho et même Falcao, c'est plus tout à fait la même
équipe. Disons que Monaco a laissé donner les clés au petit Kylian Mbappé. On se rend compte que c'est plus le même Monaco. En équipe de France, il n'a pas été flamboyant non plus. Peut-être qu'on l'a trop mis sur un piédestal tout de suite et je me demande si c'est pas une petite erreur quand même. À parler de fois. Juventus, Real, 100 millions d'euros 150, et compagnie, ou 150.
Comme à chaque fois, de toute façon, un joueur
finalement,
qui fait
deux matchs, il a l'air bien dans ses baskets, bien la tête sur les épaules, mais il n'a plus le même rendement.
Parce que Marvin Martin, c'est le nouveau Zinedine Zidane après son doublé en Ukraine.
Non, mais c'est vrai qu'il y a la jurisprudence Anthony Martial. Il y a la jurisprudence Anthony Martial qui est parti pour une somme faramineuse à Manchester et qui ne s'est pas imposé du tout là-bas et qui a beaucoup de mal.
La première année, il s'est imposé quand même. Hein. C'était le meilleur buteur de Manchester.
Je reviens sur Marvin Martin.
Marvin Martin, c'est un très bon exemple.
J'ai eu un grand moment de solitude samedi puisqu'il joue à Dijon. Et quand il est entré en jeu, il restait un petit quart d'heure. Et donc le commentateur a dit oui, Marvin Martin, ça fait 5 ans qu'il n'a plus marqué en Ligue 1. Et là, je me suis dit, il va nous en planter un contre nous. Bon, heureusement, il a été aussi discret que sur les 5 dernières saisons. Ouais. Mais j'ai quand même eu un grand moment de solitude. Ouais, dommage, je me suis dit, il va briser sa malédiction ici au Vélodrome. Ça m'a fait peur.
C'est pas le débat du jour, Mbappé, mais je pense qu'il faut les laisser grandir, ces jeunes. Quoi. Il faut arrêter en plus là avec. Toute la multiplication des réseaux sociaux, la médiatisation qui est puissance 1000 de nos jours, laissons-les tranquilles. Il ne faut pas oublier quand même que s'il veut, Mbappé cette année, il aurait pu jouer la Coupe Gambardella avec Monaco. Il ne faut pas oublier que c'est un U19, qu'il est dans la pré-liste pour jouer la Coupe du Monde du 20 cet été avec l'équipe de France. Laissons-lui le temps de faire les choses. Arrêtons de les placer tout de suite trop vite. Alors oui, il a certainement quelque chose, mais comme l'a dit Aurélien, Anthony Martial aussi, c'était le nouveau Thierry Henry. Et là, il est en train un petit peu de redescendre sur terre avec Mourinho. Donc laissons le temps au temps.
Ah, vous entendez la voix de la sagesse?
Ouais. C'était pour faire écho à ma bonne intro.
C'est parce qu'il a connu ça lui aussi.
Ouais, moi à 17 ans j'étais en DHR, je pensais que j'étais la future pépite voilà. de la NFL et au final je me retrouve au match les... un dimanche après-midi.
Donc... faire des pompes
sous la pluie, dans le froid, dans les bourrasques.
C'est ça.
S'ils veulent des conseils.
Ça dit, il y a trois semaines, tu étais titulaire en équipe 1.
Eh ouais, mais tout va vite dans le football. Ouais. Mais on a fini l'émission, mais il faudrait quand même qu'on fasse des pronostics parce que là, il y a Laurent, il faut qu'il remonte. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Il faut finir la saison avec un point.
Il débloque le compteur.
Alors, la Ligue 1, il se passe rien. L'Espagne, il se passe quelque chose le week-end prochain. Alors, ça va être compliqué à pronostiquer parce qu'on n'est pas des spécialistes du championnat espagnol, mais on va quand même essayer. Avec le choc,
le derby
à Madrid, le Real qui reçoit l'Atlético, c'est bien ça, c'est au Real.
C'est ça, ouais.
Alors, à partir de maintenant, c'est le champion qui commence jusqu'au mec qui est le moins bon pour lui laisser un petit avantage.
Comment on fait du coup, nous, vu qu'on a tous deux points?
On va faire Patrick, après on va faire moi parce que j'ai marqué un point, je suis sur une bonne dynamique, et après on va suivre Aurélien, toi et Laurent. Le Real qui reçoit l'Atlético, Patrick.
Un partout.
Très bien. 2-1 pour le Real. Aurélien.
Ah, c'est ce que je voulais dire aussi. Moi, je vais rester là-dessus. 2-1 pour le Real aussi.
Très bon choix.
2-1 pour le Real.
Très bon choix.
3-0 pour le Real Madrid.
C'est bien, Laurent.
Parce qu'à ce moment, l'Atlético, c'est pas exceptionnel non plus. Et vous allez voir.
Non, c'est pas fameux. Non.
C'est pas fameux.
Non, 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 non.
Ah, c'est pas les prestations de Grisou et Gamero qui.
Regarde le champion. Le champion, il s'y connaît. Mais
qu'est-ce qu'il a dit, le champion?
Un partout.
Et ouais, méfiez-vous. Quart de finale en rugby, vite les Auvergnats qui ont été solides sur leur pelouse face à Toulon 29-9 et qui se qualifient pour les demi-finales contre Leinster à Lyon. De l'autre côté, Munster, Sarrazin, à Dublin. Est-ce qu'on peut gagner cette Ligue des Champions, Aurélien, toi qui es spécialiste de rugby?
Clairement, fait clairement partie des favoris avec le gros match qu'ils ont fait contre Toulon. Vraiment, ça peut être leur un coup d'Europe. Et la leçon à tirer aussi de ces quarts de finale, c'est que les rouges et noirs, que ce soit du côté de la Rade ou du côté du Capitole, ont perdu un peu de leur lustre d'antan.
Tout à fait. C'est exact. Et oui, clairement, en plus, en faisant la demi-finale sur le territoire français. On a vu une ambiance dans ce stade de Clermont qui était totalement hallucinante. Donc on assistera à la même chose à Lyon avec un stade qui sera archi comble. Donc ça peut passer, mais attention à l'Inter.
C'est à Gerland.
Et donc j'ai discuté avec des supporters de Clermont samedi qui avaient déjà réservé leur place. Et donc ça va être. Gerland va être jaune cette fois-ci.
Et ils ne casseront pas les sièges du stade, non, contrairement aux supporters parisiens.
Sont bien mieux élevés.
Allez, on finit sur cette bonne note. Si, à Lunel, ils sont élevés, ils ont partagé.
Ils ont
donné leur résine à Aurélien.
C'était sympa.
Aurélien a mis 6 heures pour rentrer de Lunel à Amande.
Et aujourd'hui, il arrive avec un bandeau dans les cheveux, une chemise à carreaux.
Et des dreads. Allez, ciao les gars, lundi prochain.
Au revoir.
Ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Utah Diapéro, la qualification.